Chapitre 12. Le commissaire Zonnequin, avec qui Boulanger eut une entrevue en fin de matinée, fut d'accord sur le fait que l'équipe devait, sans négliger les autres protagonistes de l'affaire Tillier qu'on faisait désormais surveiller discrètement, concentrer ses efforts sur Blervac, sur le compte duquel on savait finalement encore peu de choses, afin de découvrir le lien qui l'unissait à Barbara. Il semblait la haïr, s'il fallait en croire l'inscription injurieuse sous la photo, alors que tous les témoignages avaient jusque-là souligné le côté attachant de la jeune femme, et pourtant, on pouvait penser qu'il l'aimait, ou l'avait aimée, si l'on considérait les initiales BR tatouées à côté d'une rose sur son omoplate. Zonnequin pensait que, lorsqu'on connaîtrait la nature de leur relation, le reste suivrait, à savoir si Blervac était l'assassin de Barbara, et, si c'était le cas, pourquoi il l'avait tuée, et peut-être même qui l'avait tué à son tour. Nous sommes samedi midi. Votre équipe et vous avez tenu à venir travailler ce matin. Très bien. Mais durant ce week-end, reposez-vous. Prenez du recul par rapport à cette affaire Roussel qui, je le sens, vous obnubile tous. Et si je puis vous donner un conseil, dès lundi, focalisez-vous sur Blervac, sans attendre les résultats de ces messieurs je sais tout du labo. Bien sûr, considéra-t-il, s'ils ont un indice scientifique. Il avait prononcé ce dernier mot avec une ironie marquée. Prenez-le quand même en compte. Mais avant tout, Boulanger, faites confiance à votre intuition et à votre jugeote. De retour dans son bureau, Boulanger informa ses collaborateurs des paroles du commissaire. Puis, avant de se séparer pour le week-end, ils se répartirent les recherches sur Blervac. Preux prit en charge le passé lointain de Blervac, et notamment sa condamnation pour le meurtre de sa tante. Monin choisit de suivre Blervac dans son parcours pénitentiaire. Elle essaierait en particulier de retrouver d'anciens camarades de détention à qui il aurait fait des confidences. Boulanger, pour sa part, s'occuperait de Blervac de sa sortie de prison il y avait 2 ans à maintenant. Où était-il allé? Qu'avait-il fait? Était-ce pendant ce laps de temps qu'il avait rencontré Barbara? Enfin, le Mailleux, aidé par d'autres policiers, allait réentendre une fois de plus les invités de la soirée, en leur présentant la dernière photographie de Blervac ainsi que le cliché de Claire Louvier sur lequel il apparaissait. On espérait que, comme pour Restoux, certains sortiraient de leur amnésie et pourraient donner des informations sur ces rencontres ou sur ces actes ce jour-là. L'après-midi, Preux qui, comme les autres, était obsédé par cette affaire, mais n'avait pas à lui d'obligation familiale, retourna à la PJ et se plongea dans le dossier de police concernant Blervac. Celui-ci était né il y avait 35 ans à Arras, où ses parents tenaient un café-tabac. Ses études n'avaient pas été très brillantes puisque, lorsqu'il avait commis son meurtre, il venait de rater pour la deuxième fois à 19 ans un bac technologique. Comme chaque année depuis ses 15 ans, il passait le mois d'août chez sa tante et marraine à Sainte-Cécile, près du Touquet. Cette Madame Brulois, pharmacienne en retraite, dont le mari était décédé, possédait une belle villa dans cette station alors peu courue de la Côte d'Opale. L'après-midi du 23 août, alors que, ne se sentant pas bien, elle était rentrée tôt de la plage, où elle passait d'ordinaire quelques heures avec d'autres retraités, elle avait surpris son neveu dans sa chambre, en train de fouiller dans son coffret à bijoux. D'après ce qu'avait déclaré Blervac plus tard, lors de son interrogatoire par la police, elle l'aurait alors injurié et se serait avancée vers lui en criant pour le gifler. Lui, perdant complètement la tête, avait saisi ce qu'il avait sous la main, en l'occurrence un gros presse-livre qui se trouvait sur le manteau de la cheminée, et l'en avait frappé. Des voisins qui avaient entendu le bruit de la dispute étaient accourus. Ils avaient trouvé Blervac prostré à côté de sa tante étendue par terre, le crâne enfoncé. « Tu seras puni par où tu as péché, » pensa Preux en se remémorant la tête fracassée de Blervac au bois de Boulogne la veille. Le commissaire Courtois n'avait eu aucun mal à boucler l'enquête. Les faits étaient patents. Du reste, Blervac avait reconnu le meurtre. Il avait été condamné à 18 ans de prison et en était sorti au bout de 14 à 33 ans. Pour compléter ces informations, Preux téléphona la Voix du Nord et à Nord Éclair et demanda à consulter leurs archives. Il retint des comptes rendus au jour le jour du procès la maladresse de Blervac. Au début, celui-ci s'était défendu avec des formules comme « Je ne voulais pas prendre tous les bijoux » ou « Ce n'était pas de ma faute » qui lui avait valu les railleries de l'avocat général. Du coup, il s'était retranché dans un mutisme obstiné qu'il avait desservi auprès des jurés. Ces derniers avaient été impressionnés par le réquisitoire très dur de l'avocat général, qui avait traité Blervac de monstre dont il fallait protéger la société. Le défenseur de celui-ci avait joué la carte de l'irresponsabilité, mettant en avant le jeune âge de son client et son faible QI, argument qu'il n'avait que médiocrement porté. Intéressant, se dit Preux quand il rentra chez lui en fin de journée. Mais il n'y a aucune trace de Barbara Roussel là-dedans. Le lendemain, Preux, qui haïssait les dimanches, décida de poursuivre l'enquête sur le terrain. Il se rendit d'abord à Saint-Paul-sur-Ternoise, une commune située entre Arras et le Touquet, où vivait la sœur de Blervac. Celle-ci habitait une petite maison à la sortie de la ville, en direction d'Hesdin. Preux, qui avait téléphoné la veille de chez lui, s'y présenta en fin de matinée. Muriel Lortiwa, née Blervac, le fit entrer dans un salon minuscule, mais soigné. Preux ne lui trouva que peu de ressemblance avec son frère, telle du moins qu'il figurait sur les deux photos les plus récentes. Elle avait 3 ans de plus que Blervac, mais paraissait plus jeune. De physique agréable, elle avait des yeux très clairs et un sourire chaleureux qui, d'emblée, la rendirent sympathique à Preux. Elle lui offrit un café qu'il accepta, puis, après l'avoir servi, se mit à parler sans attendre ses questions. J'ai vu dans le journal la photo de mon frère. Il a l'air de ce qu'il était devenu, un repris de justice. Mais je préfère garder de lui l'image de l'adolescent timide et serviable avec qui j'ai partagé de nombreux fous rires. Vous étiez donc proche de lui? À l'époque du meurtre, oui. Nous étions trois dans la famille, mais mon autre frère est beaucoup plus jeune. Jean-Pierre se confiait beaucoup à moi. Il faut dire qu'il était devenu un beau gars et que pas mal de filles, même des plus âgées, lui tournaient autour. Preux, dans un flash, revit la première photo de Blervac, le visage doux et régulier. Mais Muriel Lortiwa continuait. Elle ne le laissait pas indifférent, mais il était très timide et manquait d'assurance. Avec moi, pourtant, il osait parler. Il me dévoilait ses états d'âme, me demandait mon avis. Il y avait de la fierté dans la voix. Comment expliquez-vous ce qui s'est passé avec votre tante? Elle réfléchit quelques secondes. À vrai dire, je n'ai jamais trouvé d'explication. Ce n'est pourtant pas faute d'y avoir songé. Si j'avais été à ses côtés, à Sainte-Cécile, ce maudit 24 août, j'aurais peut-être pu pressentir les choses et les empêcher. Mais j'étais resté à Arras où j'aidais les parents à tenir le café tabac. La voix éteinte, le regard perdu dans le vague, Preux sentait qu'elle avait dû souvent évoquer cette hypothèse. Au bout d'un moment, elle se ressaisit, planta son regard dans celui de Preux et poursuivit plus fermement. Pourtant, quand il est parti au début du mois, il paraissait content. Bien sûr, cette tante, sa marraine, n'était pas toujours facile. Depuis quelques années, elle invitait Jean-Pierre chez elle un mois l'été. Elle disait qu'il respirerait le bonheur de la côte, que ce séjour le sortirait des miasmes du café-tabac. Elle présentait à mes parents son invitation comme une insigne faveur, alors qu'en réalité, depuis qu'elle était veuve, elle s'ennuyait et avait peur de vivre seule. Quand il était chez elle, elle avait tendance à l'utiliser comme un domestique. C'était des « Jean-Pierre, il faudrait réparer ci » ou « Jean-Pierre, il faudrait aller m'acheter ça ». Il m'avait avoué en me téléphonant un soir qu'il supportait de moins en moins ce côté autoritaire. Vous allez me dire qu'il n'avait qu'à refuser l'invitation, mais ce séjour sur la côte, c'était une façon d'échapper à Arras et à l'atmosphère familiale qui était pesante. Elle se tut un instant puis ajouta avec un rire amer. Il faut dire que notre père était au moins aussi tyrannique que notre tante. Elle était pour la deuxième fois perdue dans ses souvenirs, et il y eut un nouveau silence. Finalement, elle sembla se rappeler la présence de Preux. Excusez-moi, dit-elle en se forçant à lui sourire. Je n'aime pas repenser à cette période. Pour en revenir à Jean-Pierre et à ma tante, malgré ce que je viens de vous dire, ils ne s'entendaient pas si mal. Même si ma tante l'agaçait, il lui était reconnaissant de lui permettre de quitter la maison. Quant à elle, elle s'était attachée à lui. Elle devait considérer qu'il était le seul qui méritait d'être sauvé dans notre famille de bistrotiers, comme elle nous appelait. C'est pourquoi, comme je vous le disais, ce qui s'est passé au Touquet me paraît toujours incompréhensible. Votre frère s'est-il expliqué là-dessus? Pas vraiment. Il s'est vite cantonné dans un silence buté. Et comme les faits étaient accablants et qu'il les reconnaissait, même l'avocat général n'a pas insisté sur le motif de l'homicide lors du procès. En tout cas, le meurtre de notre tante a fait éclater ma famille. Mes parents, de même comme notre frère, ont coupé totalement les ponts avec Jean-Pierre, refusant même d'aller le voir en prison. Lui-même, pendant son incarcération, a changé. Il est devenu taciturne et méfiant. Quand je lui rendais visite, il me parlait à peine. Je lui ai envoyé des lettres, des colis. Il n'a jamais répondu. Il n'y avait pas de rancœur dans la voix, juste de la tristesse. Peu de temps avant qu'il ne le libère, je suis retourné le voir et lui ai proposé, malgré l'hostilité de mon mari, de l'héberger le temps qu'il trouve du travail. Mais il a refusé. Même s'il a refusé pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que le fil allait être renoué. Merci de ton aide, m'a-t-il dit, et merci de ne pas m'avoir laissé tomber comme les autres, mais je me débrouillerai. Je dois régler mes problèmes seul. Et puis, quand il est sorti de prison, de nouveau il ne m'a plus donné de nouvelles, jusqu'à ce que j'apprenne sa mort par le journal il y a 2 jours. Cette fois, elle prenait sur elle-même pour ne pas pleurer. Preux entendit le bruit d'une clé dans la serrure de la porte d'entrée, puis les pas lourds de quelqu'un qui passait dans le couloir le long du salon, s'arrêtait quelques instants devant la porte puis s'éloignait. Muriel Lortiwa l'avait entendue elle aussi, car elle regardait subrepticement sa montre. Une dernière question, mademoiselle Lortiwa, dit Preux. Votre frère a-t-il jamais mentionné devant vous le nom de Barbara Roussel? Elle semblait pressée maintenant de conclure l'entretien. Preux la vit néanmoins faire un effort de concentration. Comme je vous l'ai dit, Jean-Pierre avait un certain succès auprès des filles, même s'il n'en profitait pas par timidité. Il m'a consulté sur quelques-unes, mais à ma connaissance, et pour autant que je me souvienne, n'a jamais cité ce nom-là. Mais pourquoi cette question? Preux ne jugea pas utile de lui signaler qu'après celui de la tante, Blervac était susceptible d'avoir commis un autre meurtre. Si c'était le cas, elle l'apprendrait bien assez tôt. C'est juste une piste, dit-il, avec un geste vague, en se levant du canapé dans lequel il était assis. Maintenant, on entendait distinctement des bruits de couverts dans la cuisine. Le mari devait mettre la table, guettant son départ. Alors qu'il prenait congé, elle lui dit rapidement, d'une voix qui tremblait un peu. Lieutenant, après toutes ces années de prison, mon frère avait payé sa dette et ne méritait pas cette mort infâme. Je souhaite vraiment que vous capturiez celui qui lui a fait cela. Après avoir rapidement dîné à Montreuil, Preux arriva au Touquet au milieu d'après-midi. Il avait pris rendez-vous à 16 h avec Robert Collier, le journaliste de la Voix du Nord qui avait couvert le procès de Blervac 16 ans auparavant et était désormais à la retraite. En attendant, il fit quelques pas dans la rue Saint-Jean, en direction de la plage. La vague de chaleur était bien finie. Un vent aigre soufflait tandis que des nuages menaçants arrivaient de la mer. Il régnait dans la perle de la côte d'Opale cette atmosphère nostalgique d'arrière-saison typique des stations balnéaires. Peut-être à cause du temps, il y avait peu de monde dans cette artère d'ordinaire si fréquentée. Aussi Preux n'eut-il aucun mal à reconnaître, marchant sur le trottoir d'en face, Claire Louvier. Elle regardait les vitrines et ne l'avait pas vue. Impulsivement, il traversa la rue et là. Elle tourna la tête, surprise d'entendre son nom, le reconnut et lui sourit. Tiens, tiens, quel hasard! Le lieutenant Preux. Que faites-vous ici? Si vous êtes en vacances, vous avez loupé le soleil d'une semaine, dit-elle en faisant un mouvement de tête vers le ciel gris. À moins que vous ne soyez ici pour raisons professionnelles. Sa voix était enjouée avec une pointe d'ironie. Preux n'était pas décidé à lui dire qu'il allait rencontrer un ex-journaliste à propos de Blervac. C'est pourquoi elle lui répondit sur le même ton badin. C'est ma journée de repos, et j'ai décidé de la passer loin de la pollution de l'île. Pour faire d'une pierre deux coups, j'en profite pour rendre visite à un vieil oncle que je n'ai pas vu depuis longtemps. Elle le regardait la tête légèrement penchée sur le côté, un léger sourire au coin des lèvres. Très bien, je vous laisse à vos devoirs familiaux. Mais puisque vous êtes ici en villégiature et que vous avez le temps, que diriez-vous d'un repas de fruits de mer? Je connais d'excellents restaurants ici. Et si vous ne savez pas de quoi me parler, ajouta-t-elle d'un air mutin. Vous pourrez toujours me donner sur l'affaire Tillier d'aussi bons tuyaux que celui de l'autre jour, sur le sexe de Claude Gauvin. Preux rougit, un sourire crispé aux lèvres. Vu la situation, il lui était difficile de refuser. Au demeurant, il n'en avait aucune envie. Ils convinrent de se retrouver à la digue en face de la rue Saint-Jean à 19 h. Robert Collier habitait un appartement cossu au troisième étage d'un immeuble donnant sur le front de mer. Par la bow window du salon, où il fut introduit, Preux voyait le liseré gris de la mer du Nord qui se confondait avec le ciel à l'horizon. Madame Collier amena à Preux et à son mari un café serré, après quoi elle se retira discrètement en fermant la porte du salon. Robert Collier occupait un grand fauteuil face à Preux. C'était un petit homme rondouillard, complètement chauve, dont les yeux ne manquaient pas de vivacité derrière des lunettes à monture métallique. Il sirotait son café d'un air gourmand, attendant que le policier parle le premier. Quand Preux lui eut expliqué le motif de sa visite, il parut étonné. C'est curieux. Une jeune consœur du journal est venue me voir ce matin pour les mêmes raisons. Elle aussi voulait des informations sur le procès Blairval d'il y a 16 ans. Ce fut au tour de Preux d'éprouver de la surprise, qu'il parvint à dissimuler derrière un intérêt poli. C'est elle qui a écrit les articles sur la mort de Blairvac, poursuivit Collier, sans se douter qu'il n'apprenait rien à Preux. Quand je les ai lus, l'affaire d'autrefois m'est revenue en mémoire. En réalité, ajouta-t-il avec un léger sourire, je ne l'avais pas oubliée, car elle m'a toujours laissé une drôle d'impression. Que voulez-vous dire? Collier ne répondit pas directement à la question. Au départ, l'affaire semblait simple. C'était presque un flagrant délit. Comme me l'a expliqué le commissaire Courtois, aujourd'hui décédé, Blairvac avait toujours en main l'arme du meurtre, un presse-papier, quand les premiers témoins sont arrivés, et il a avoué immédiatement. On a alors parlé d'un crime abominable, et on a présenté Blairvac comme un être amoral et cupide. Il faut avoir à l'esprit qu'à cette époque, l'opinion publique était sensibilisée par toute une série de cambriolages accompagnés de violences qui avaient été commises dans la région de Montreuil et sur le littoral. On n'a jamais pris les coupables et, du coup, c'est Blairvac qui a fait les frais de l'exaspération générale. Mais quand je l'ai revu lors de l'ouverture du procès quelques mois après, j'ai tout de suite senti qu'on lui faisait porter un chapeau trop grand pour lui. Ce jeune homme émotif, qui a pleuré quand on a évoqué sa tante, ne cadrait pas avec le monstre que décrivait l'avocat général. Vous pensez qu'il n'était pas coupable? Collier regarda fixement Preux, parut chercher ses mots. Il allait s'emparer des bijoux, tous de valeur, et il a frappé sa tante quand elle l'a surpris. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais au début du procès, quand il acceptait encore de dire quelque chose, tout en reconnaissant le meurtre, il a prétendu ne pas être coupable. Cela a paru incohérent et l'avocat général ne s'est pas gêné pour ironiser. Il eut un sourire désabusé avant d'ajouter. Et on ne peut lui donner tort. Ces formules, ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas coupable, deviennent un leitmotiv dans notre société où chacun se défausse de ses responsabilités. Est-ce que ça signifie qu'il aurait eu un complice? Collier rougit légèrement. Eh bien, j'avoue que l'hypothèse m'a plusieurs fois traversé l'esprit, à l'époque et après. J'ai vraiment eu le sentiment qu'au fond, il éprouvait de l'affection pour sa tante, et je me suis demandé si l'idée de ce vol n'émanait pas de quelqu'un d'autre. Attention, ajouta-t-il, comme s'il était effrayé de son audace. C'est juste une idée qui m'est venue dans les premiers jours du procès et qui n'est étayée par aucune preuve. Par la suite, malheureusement, sous les sarcasmes de l'avocat général, il s'est refermé sur lui-même et a fini par ressembler au portrait peu flatteur que dressait de lui le ministère public. Vous savez que Blairvac est soupçonné aujourd'hui d'un second meurtre? Oui, ma consœur me l'a expliqué. Il aurait assassiné cette jeune femme que l'on a retrouvée poignardée lors d'une réception il y a 8 jours. Il réfléchit quelques instants puis reprit. Si c'est vrai, c'est difficilement compréhensible. La seule chose possible, c'est que la prison l'a endurci et pourri. Il y est vraiment devenu mauvais. Du reste, il ne serait pas le premier et sur qui elle agirait ainsi. Regardez la photo publiée ce matin. Il montrait la photo la plus récente des trois photos que Preux avait vues dans le porte-carte à l'hôtel. On n'aimerait pas rencontrer ce type la nuit au coin d'une rue sombre. Quelques instants plus tard, Preux, après avoir remercié Robert Collier, se retrouva dehors. Il arpenta la digue, repensant aux paroles du journaliste, puis se décida à passer quelques coups de fil. Il voulait vérifier quelque chose. Il se présenta peu avant 19 h au lieu de rendez-vous avec Claire. Celle-ci n'était pas encore là. Le jour commençait à décliner et il faisait froid. Quelques personnes en mitouflées marchaient sur la plage. Un grand calme était installé sur la station. On entendait seulement le bruit des vagues et, de temps en temps, le cri d'une mouette. Preux fixait l'écume blanche des premières vagues, tout songeur, lorsque Claire arriva venant de la rue Saint-Jean. Le restaurant auquel elle avait songé se trouvait dans cette rue, pas loin. Le patron avait l'air de la connaître, les installa dans un coin discret. Claire portait un pull norvégien de couleur claire qui mettait en valeur ses yeux verts et son visage fin. Preux la trouva très en beauté. Il remarqua qu'elle était très peu maquillée, ce qui lui plut, lui qui détestait les femmes fardées. La visite chez votre oncle s'est-elle bien passée? Lui demanda-t-elle en guise de préambule, un petit sourire au coin des lèvres. Tout à fait, répondit Preux sur un ton jovial. Il a eu plaisir à me revoir et on a échangé les dernières nouvelles familiales. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était journaliste? Et devant l'air ahuri de Preux, elle poursuivit en riant. Vous êtes bien allé chez Robert Collier? Ou alors c'était une visite en plus de celle faite à votre oncle? Preux beau joueur finit par esquisser un sourire. Je vis moi-même Robert ce matin, reprit-elle. En partant, j'ai oublié mon parapluie, si bien que je suis repassé chez lui avant de venir ici. C'est ainsi que j'ai appris qu'un grand lieutenant de police à l'air décidé était venu l'interroger. Je pensais que ce ne pouvait être que vous, ajouta-t-elle avec un rire teinté d'ironie. Je suppose qu'il vous a dit aussi le motif de ma visite. Évidemment. Et la solidarité entre confrères, qu'en faites-vous? Comme Preux se rembrunissait, elle reprit l'air malicieux. De toute façon, même s'il ne m'avait rien dit, j'aurais su qu'il s'agissait du procès Blervac. N'avez-vous pas téléphoné hier au journal pour demander à consulter les numéros s'y rapportant? Preux, tout en le cachant soigneusement, ne put s'empêcher d'admirer sa sagacité. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire vieille de 16 ans? Poursuivit-elle sous la sérieuse. Il ne put résister au plaisir de prendre sa revanche. Vous qui êtes si bien informé de tout ce que fait la police, vous ne le savez pas? Vous me décevez. Peut-être effectivement suis-je au courant, mais si je vous le dis, je risque encore de vous vexer. Le ton se voulait enjoué, mais la voix s'était faite plus dure. Preux décida de lâcher du lest. Je présume que vous savez que nous soupçonnons Blervac d'être le meurtrier de Barbara Roussel. Il était à la Garden Party des Tilliers. Il figure sur une des photos que vous y avez prises. Finalement, elles se sont avérées utiles, mes photos, vous devez l'avouer, dit-elle de nouveau détendue. Encore un service rendu à la police par un plumitif. En d'autres circonstances, Preux aurait sorti sa panoplie d'arguments contre les journalistes, mais là, il n'en avait aucune envie. Il voulait au contraire profiter de la perspicacité de la jeune fille. La question que nous nous posons est, comment la connaissait-il? Pensez-vous que cela date de l'époque du meurtre de la tante? Elle répondit par une autre question. Robert Collier vous a-t-il parlé à vous aussi de la possibilité d'un complice? Oui. Vous pensez que ça aurait pu être Barbara? Pourquoi pas? Elle habitait Calais, ce n'est pas loin d'ici. Elle avait 14 ans à l'époque. C'est un peu jeune, non? De tout temps, il y a eu des Lolitas qui ont ensorcelé des gens plus âgés. En outre, ça cadrerait avec le tatouage BR à côté d'une rose sur l'omoplate de Blervac. C'est juste, dit Preux. Toutefois, les témoins ont dépeint Barbara comme charmante et désarmante. Or, si elle avait inspiré à Blervac le vol des bijoux de sa tante, elle apparaîtrait comme une sacrée garce. Elle a pu évoluer et changer de caractère depuis cette époque. Un arbre pourri reste un arbre pourri, énonça sentencieusement Preux, sans que Claire sache s'il s'agissait d'un proverbe précis ou si la citation était de son invention. Et puis, j'ai eu l'impression que Collier, si complice il devait y avoir, pensait plutôt à un homme qu'à une femme. Justement, à ce propos, j'ai peut-être une autre piste. Laquelle? Elle décida de le faire languir. Attention, c'est un vrai renseignement que je vais peut-être vous confier. Pas un tuyau crevé comme celui que vous m'avez donné l'autre jour. Vous vous rappelez? Claude Gauvin est une femme. Décidément, pensa Preux, elle a la rancune tenace. Pour le moment, nous n'avons pas de preuve que Blervac soit l'assassin de Barbara, et donc qu'il soit Claude Gauvin. Donc ce dernier peut être une femme. Mais bref, ajouta-t-il en prenant l'air blasé, donnez-moi toujours votre information, je verrai bien ce qu'elle vaut. Elle hésita un peu, agacée par ses heures supérieures, puis parla. Je suis allé chercher des renseignements sur Georges Callot. J'ai découvert que ses parents possèdent depuis plus de 20 ans une villa à Stella-Plage. C'était une autre station de la Côte d'Opale, proche de Sainte-Cécile. Preux resta pensif, évaluant la portée de l'information. Claire en profita pour pousser à son avantage. Voici mon idée. Callot et Blervac, qui ont le même âge, se connaissaient. À l'instigation de Callot, ils ont décidé, par défi ou par esprit de lucre, de voler la tante. Blervac se fait surprendre par celle-ci, s'affole et la tue. Il est arrêté. Callot l'abandonne à son sort. Blervac, quand il en prend conscience, ne dit rien, rumine sa vengeance en prison, et à sa sortie, l'exécute en poignardant Barbara Roussel, qu'il sait être la maîtresse de Callot. Celui-ci le devine, arrive à retrouver Blervac et l'assassine à son tour. Un peu mélodramatique, non? Suggéra Preux avec une moue dubitative. Si, bien sûr, et alors? S'emporta-t-elle. Des vengeances qui s'étalent sur 10 ou 20 ans, l'histoire en regorge. Prenez le comte de Monte-Cristo. Pendant combien d'années Edmond Dantès mûrit-il sa vengeance en prison? Bien qu'impressionné par la culture de Claire, Preux ne put s'empêcher de répliquer. Mais il s'agit d'un roman! Elle balaya l'objection d'un geste. Ne pinaillez pas, je vous en prie. J'aurais pu prendre Clovis le vase de Soissons si vous préfériez. Et comme vous allez me dire que ça remonte à loin, je m'empresse de vous faire remarquer que la vie moderne fourmille aussi d'exemples de cette attitude. D'ailleurs, ne me dites pas que, depuis que vous êtes flic, Vous n'avez pas rencontré à la PJ des canalogues. Peut-être deux ou trois, répliqua Preux qui s'échauffe à son tour. Mais beaucoup moins que vous ne le pensez. Ces vengeances qui s'exécutent longtemps après, ce sont des artifices de romans policiers. La vie réelle est plus simple et plus sordide. La plupart des homicides sont commis sous le coup d'une émotion immédiate, un coup de colère, un coup de sang. Et même quand le mobile est la vengeance, le meurtrier n'attend pas 20 ans. C'est l'ouvrier licencié qui abat son patron quelques jours après, ou le mari délaissé qui élimine un rival, dès qu'il est au courant de son infortune. Et quand ils ont accompli leur acte, ils se réveillent et prennent conscience qu'ils ont commis l'irréparable. Voilà pourquoi la plupart du temps, on les arrête aussitôt ou presque, prostrés ou épouvantés, auprès de leur victime. Lui aussi, il criait presque, comme Claire juste avant. Le patron, attiré par ses éclats de voix, les regardait de loin, le sourcil froncé, n'osant intervenir. Finalement, Preux parut réaliser qu'il se trouvait dans un lieu public, bien que le restaurant fût aux trois quarts désert. Il jeta des regards inquisiteurs autour de lui, puis reprit plus bas. Dans la vie moderne, pour reprendre votre expression, il n'y a même plus besoin de montée d'adrénaline due à la colère ou au désir de vengeance, comme élément déclencheur. On tue parfois gratuitement, pour s'amuser. Il s'arrêta de parler, revivant une fois de plus cette patrouille avec Chaussois et revoyant son collègue exécuté à bout portant devant lui, lors d'un simple contrôle d'identité. Le coupable, sans aucun remords, avait avoué qu'il voulait se faire un flic. Vous êtes bien un maire, lieutenant. Et vous trop idéaliste, répondit-il vivement. À mon âge, je préfère être idéaliste que désabusé, comme vous. Je suis lucide, corrigea-t-il, pas désabusé. Un silence pesant s'établit. Il n'osait plus se regarder, ennuyé au fond d'en être arrivé là. Au bout d'un long moment prenant sur elle, Claire demanda. D'après vous, qui a tué Blervac? Je n'en sais encore rien. Sincèrement, dit-il en lui adressant un demi-sourire. Tout à l'heure, en vous attendant sur la digue, j'ai eu comme un embryon d'idées, mais cela reste très flou, je dois y réfléchir davantage, voir si toutes les pièces du puzzle s'assemblent correctement. Elle le regardait d'un air sceptique. Il ressentit soudain le besoin de regagner sa confiance. Écoutez, si j'aboutis, je vous promets de vous donner l'information en scoop. Il vit un sourire ironique fleurir sur ses lèvres. Je vous assure que ce n'est pas un nouveau moyen de me débarrasser de vous. Il faillit ajouter je n'en ai aucune envie, mais il n'osa pas. Pendant un moment, elle sembla le jauger. D'accord, finit-elle par dire. Je verrai bien si vous tenez parole. Le repas s'achevait. Il n'avait rien laissé du somptueux plateau de fruits de mer. En outre, Claire avait fait largement honneur au chariot de dessert. Le restaurant était désormais vide. Preux voulut régler l'addition, mais elle refusa avec véhémence et tint à payer sa part. Dehors, il faisait nuit noire et une pluie fine et froide tombait. Preux l'accompagna jusqu'à sa voiture. À Lille, je connais des restaurants sympathiques. J'aimerais à mon tour vous faire découvrir l'un d'eux. Elle était arrivée à son auto. Elle en ouvrit la portière, se tourna vers lui. Je ne dis pas non. Disons, quand cette affaire sera terminée. Et comme il la regardait, l'air stupide, en se demandant si elle ne se moquait pas encore de lui, elle monta dans sa voiture, ouvrit sa vitre de portière et, avec un sourire ravageur, ajouta: Je souhaite que vous trouviez vite la solution, Hercule Poirot. De retour à Lille, tard dans la nuit, Preux ne parvint pas à s'endormir. Stimulé par la promesse de Claire, il reprit l'idée qui s'était formée dans son esprit au Touquet et essaya de la développer. Il repensa à ce qui avait été dit et fait par les uns et les autres: Gentillier, sa femme Rebecca, Georges Callot, Mélanie Fougaille, Georgette Lecœur, Damien Restoux et Jean-Pierre Blervac, avant et depuis le meurtre de Barbara. Il y adjoignit les maigres indices, le badge Claude Gauvin trouvé sur le lieu du crime, le coup de fil à Barbara 5 jours avant le meurtre, l'anneau découvert dans la poche de la morte, l'article et la photo annotés par Blervac, le contenu de la chambre d'hôtel, le tatouage sur son épaule. Et puis, tout à coup, vers 5 heures du matin, alors qu'il venait de s'assoupir pendant un court instant, tous ces éléments disparates s'assemblèrent de façon logique. Mais quand le réveil sonna un peu après 6 heures, il avait tout oublié, excepté la soirée avec Claire, qu'un sournois mal de crâne, dû à l'excès de Macomblanc ou au manque de sommeil, lui rappelait douloureusement.